et sœurs.
Ça marche ce truc?
Oui, ça marche. Hein. Voilà. J'espère que je ne manquerai pas de délicatesse envers certains d'entre vous. Croyez-le, je ne veux pas créer de gêne et je suis moi-même gêné un peu du sujet dont je veux vous parler. Je vous demande pardon si jamais je touche à quelque chose qui est de votre passé, par exemple, et qui pourrait vous faire revenir des situations qui vous toucheraient dans votre conscience. Vous savez que dans l'Épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul a dit à certains, mais vous étiez ceci, vous étiez cela avant, vous étiez quelque chose de... Vous étiez quelque chose de pas très beau, mais il vous a racheté, il vous a fait enfant de Dieu, et vous êtes entièrement sur le roc, n'est-ce pas ? Vous n'êtes plus des pécheurs, vous êtes sauvés par grâce entièrement. Et il disait cela au sujet de gens qui, à Corinthe, étaient vraiment immoraux dans le passé. Donc j'espère ne pas vous choquer. Parce que ce sujet dont j'ai à cœur de vous parler, c'est les relations contre nature. J'en ai parlé aux anciens, hein, ils m'ont répondu que tout ce qui est biblique doit être dit, alors je vais dire. Je ne sais pas si je saurais tout dire, mais en tout cas, je vais essayer. Je ne veux pas choquer. Mais en même temps, je pense que les chrétiens sont gênés, eux aussi, parce qu'ils ne savent pas trop répondre aux arguments présentés comme modernes par les journalistes, par les militants des droits à la préférence sexuelle, et dans lesquels les autorités politiques et l'administration elle-même s'engouffrent avec un total mépris de la démocratie véritable. Ce mépris, c'est le fait de ne pas respecter les valeurs fondamentales de la famille et du mariage en introduisant et en déclarant possible d'autres formes de relations sociales. Ils pensent que toutes les formes ont leur place et que c'est une preuve de pluralité et donc de démocratie. Cette pensée procède d'une philosophie, d'une idéologie erronée. Je pense que les chrétiens devraient exprimer plus clairement leur opposition à de tels mépris et qu'ils ne le font pas assez par manque d'argumentation, ou plus précisément par perte de l'argument fondamental. Mais attention, il nous faut l'exprimer notre position avec douceur, avec respect et en même temps avec fermeté. C'est pas évident, c'est délicat. Vous vous souvenez d'un slogan très en vogue il y a 44 ans? Vous vous souvenez? Le mariage est une institution bourgeoise. Le mariage est une institution bourgeoise, c'est ce qui se disait il y a 44 ans. C'était à l'époque la façon de mépriser. Le bourgeois, c'était vraiment le truc le plus mauvais, quoi. Hein, c'était le mal absolu presque, le bourgeois. Le mariage est une institution bourgeoise. C'était de la manière la plus abjecte pour une jeunesse qui se libérait des carcans de la culture judéo-chrétienne. Et cette culture, il la regardait de manière biaisée, hein, mais il la regardait d'une drôle de façon et il disait « Le bourgeois, la bourgeoise installée qui fait l'acquisition d'un conjoint comme apothéose de sa réussite sociale. » Et il prenait ça avec mépris, n'est-ce pas ? La propriété de l'autre comme un but capitaliste. C'était leur idée. Tout ce qui était mauvais était bourgeois. Et donc le mariage était mauvais. Il y avait probablement de beaux exemples à l'époque à montrer de cette mentalité bourgeoise. Et nous en sommes certains, il y en a encore aujourd'hui, 44 ans plus tard. Alors, l'institution est en voie de disparaître actuellement par les coups de boutoir idéologiques prétendument modernes et véhiculés par la culture, la philosophie, et même les scientifiques, la théorie du genre, vous savez, c'est pas, il n'y a pas longtemps que c'est sorti. Hein. Et il n'y a plus à discuter, n'est-ce pas, puisque même la science est d'accord. Hein. Donc, voilà. Mais voilà que certaines personnes, aujourd'hui, insistent, paradoxalement, pour perpétuer le principe du mariage. Ils veulent le mariage gay et la famille homoparentale. C'est incroyable. D'un côté, pas de mariage, et d'autre côté, on veut le reconstruire, enfin, le faire. Hein. C'est un droit, disent-ils. Ils sont donc pour le mariage. Alors, c'est quoi le mariage ? Le vrai mariage. Qui peut prétendre à un mariage parfait ? Personne. Et je ne prétends pas, moi, être un mari modèle. Et si vous le pensiez, vous vous tromperiez. Et d'ailleurs, messieurs, il n'y a pas de mari parfait. Et il n'y a pas d'épouse parfaite, mesdames. Hein, nous le savons. Alors, devant cette imperfection congénitale de tous les couples, est-ce qu'il y aurait une raison qui permettrait de cautionner d'autres formes de relations ? Notre incapacité à réaliser des beaux mariages parfaits justifierait-elle d'autres possibilités ? Il y a une gêne manifeste là. Nos mariages ne sont pas parfaits. Les conflits conjugaux sont certainement les guerres les plus nombreuses, les plus fréquentes au monde. Ce ne sont pas les grandes guerres qui sont bien sûr nombreuses en morts, en dégâts. Mais les fréquences les plus importantes dans ce monde, ce sont les guerres conjugales. Comme ces mariages ne sont pas parfaits, alors on pense qu'il n'est pas bon de les présenter comme le seul modèle à suivre. Et c'est pour cela que vous entendez souvent la phrase supposée être l'argument incontestable et définitif. Je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas être ensemble, puisqu'ils s'aiment. Vous remarquez le glissement. L'argument avant, c'était le seul mariage, c'est entre personnes de genre opposé. Et aujourd'hui, le seul argument qui existe, c'est puisqu'ils s'aiment, l'amour. L'amour. Et nous, les chrétiens, on est pour l'amour. Est-ce que ce n'est pas à Antioche ? Oui, c'est à Latakié. Aujourd'hui, ça s'appelle Latakié parce que vous en entendez parler dans les informations. Hein. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés Petit Christ. Et vous voyez dans les Actes, au chapitre 11, versets 26 à 30, qu'ils furent appelés Petit Christ parce qu'ils avaient de l'amour pour les autres. Ils avaient un amour très fort. Et c'était quoi cet amour ? C'était donner. Et vous savez ce qu'ils ont donné ? De l'argent. Ils ont donné de l'argent à Jérusalem. Enfin, ils avaient à cœur d'aider les autres. C'était des Petits Christ donnés. Si vous êtes pour l'amour, vous les chrétiens, bah, vous ne pouvez pas être contre les homosexuels. Hein ? Et résultat, effectivement, quelques mouvements religieux ont franchi le pas, n'ayant pas perçu ni aperçu que c'était en totale contradiction avec Dieu. Jean de la Bruyère a dit « Le plaisir le plus délicat est de faire celui d'autrui. » C'est beau, hein ? C'est un poète français et c'est pas mal. Hein ? C'est bien dit. Je préfère pour ma part ce que dit l'apôtre Paul dans Actes 20, verset 35. Il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » C'est simple, hein ? « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Et alors, je me suis dit, mais au fait, alors j'ai cherché parce que je ne me souvenais plus où c'était, et puis j'ai vu que c'était dans Actes. Et puis il est dit que c'est Jésus qui l'a dit, ou que c'est Dieu qui l'a dit. Il n'est pas dit que c'est Jésus, il a dit que c'est le Seigneur qui a dit cela. Le Seigneur a dit cela, alors j'ai essayé de chercher un peu ailleurs. Ben non, nulle part, vous ne voyez. Jésus dira à un moment donné, dans son comportement, il l'a dit dans son comportement, mais il ne l'a pas dit, et ce n'est pas écrit. Nulle part. Alors ça m'a exalté, ça m'a vraiment fait plaisir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On sait que c'est Dieu qui l'a dit lui-même, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Mais où ? Alors je vous propose de chercher, vous pouvez chercher. Quel verset, quel chapitre, quel livre, vous n'allez pas le trouver. Je suis prodigieusement exalté au sujet de ce verset 35. Il est extraordinaire. Dieu dit... l'amour, ce n'est pas recevoir, mais donner. Bon, ça vous semble simple, vous, chrétiens, on sait. Mais quand vous parlez de l'amour partout, c'est plutôt le contraire. C'est je prends. Quelquefois pire que prendre. Hein. Effectivement, ces 68 arts avaient quelque part un peu raison de dire que les bourgeois et les bourgeoises terminaient leur réussite sociale par un beau mariage, un beau parti, etc., etc. Un peu ce que dénonçait Molière. Vous vous souvenez, on a appris ça à l'école. Molière ou Montaigne, puisque Montaigne est un peu le maître à penser de Molière. C'est l'amour bafoué par un père avare, un religieux hypocrite, un père malade imaginaire. Hein, vous voyez, vous vous souvenez? Et cet amour était devenu l'idéal, pur, désintéressé, un don de soi. C'était pas dit, mais c'était un peu ça. Hein. Mais on pouvait le voir en filigrane, un idéal inatteignable. Il y avait une part de vérité dans cette définition de l'amour. Mais moi, je préfère quand même celle de l'apôtre Paul. Il y a plus à donner qu'à recevoir. Alors nous arrivons enfin, après cette longue introduction, excusez-moi, à l'amour véritable et au mariage véritable. Un principe qui est totalement l'inverse de toutes les autres formes de relations affectives, légitimes ou non, entre les vivants. D'abord Dieu. Nous allons prendre le vrai mariage. Et vous verrez que le vrai mariage, ce n'est pas celui que vous imaginez, que vous avez dans la tête actuellement. D'abord Dieu. Dieu est une personne en trois personnes qui se suffisent à elles-mêmes. Dieu est parfait, incréé, auteur de tout ce qui existe. Il aurait pu rester comme il est, parfait. Est-il possible d'être plus que parfait quand on est parfait? Ben non, parfait, c'est parfait. Quelqu'un est-il au summum de la perfection? Il ne trouvera pas autre chose de plus parfait que lui, n'est-ce pas? Eh bien, pour Dieu, c'est pas tout à fait comme ça. Pour lui, rien n'est impossible. Et dans sa perfection, Dieu fait quelque chose. Dans la nuit des temps, avant même que le temps n'existe, il dit « créant l'univers ». Il dit autre chose, il dit plein de choses, pas le temps de détailler, on en aurait pour plusieurs siècles. Mais en particulier, il a dit « faisons l'être humain à notre image, à notre ressemblance ». Genèse chapitre 1, verset 26. On va faire un autre qui nous ressemble, ont-il dit, mais qui est autre, qui n'est pas nous, qui n'est pas Dieu, qui est autre chose que Dieu. Inférieur à Dieu? Oui, pour l'instant. Pour l'instant, Hébreux chapitre 2, verset 7 nous dit, oui, pour un peu de temps, il a été abaissé au-dessus, au-dessous des anges. Mais c'est un peu de temps. On va faire un autre qui nous ressemble. Mais qui est cet autre qui n'est pas nous? C'est Dieu qui parle, hein? Qui est cet autre qui n'est pas nous? Qui n'est pas Dieu? Qui est autre chose que Dieu, inférieur à Dieu? Non. Cet autre, il est autre et il ne sera pas Dieu. Il ne sera jamais Dieu. Car Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Ésaïe 42, verset 8. Il sera la créature de Dieu. Il sera cet autre différent de Dieu. Mais comment a-t-il été créé cet autre? Et on va reprendre un peu, enfin vous l'avez dans la tête bien sûr, tous ces chapitres du début de la Genèse. Vous avez un écrit précis des événements qui se sont déroulés au début. Le livre de la Genèse, chapitre 1, et au sixième jour, il nous est dit, Dieu crée l'autre, la maquette, l'image de ce qui est, le couronnement de sa création. Cela, c'était très bon, verset 31. Dieu ne se trompe pas quand il fait quelque chose. Il n'utilise pas souvent le superlatif, mais là, il a dit, c'était très bon, verset 31. Même que les anges, ils ont chanté de joie, ils ont jubilé devant tout ça. Job, chapitre 38, verset 7. Mais qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé son image. J'insiste, son image. Oui, le verset 27 nous dit qu'il créa l'être humain, Adama, mâle, femelle. à son image. Est-ce à dire que Dieu est mâle-femelle, au sens sexuel du terme ? Non, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. C'est dans Jean chapitre 4, verset 24. Alors que disait Dieu en créant des êtres vivants, mâles, femelles ? Il disait la même chose que ce qu'il est lui. Je suis, en gros, je fais parler Dieu, hein, excusez-moi, mais c'est un peu ça. Je suis au tout début de ma création. Je suis au tout début de ma création. Elle est au point de départ. Sans enfants, sans petits. Il n'y a que des adultes qui ne sont pas encore parents. Dieu leur ordonne de grandir et de se multiplier, au verset 28 du chapitre 20. La volonté de Dieu n'est pas une création figée, mais plutôt une création qui se développe par elle-même. Il a lancé le processus, il a donné à l'être humain la mission du développement de l'ensemble, dans une cohérence parfaite dont il est le garant et le protecteur. Un ordre et une organisation subtile, délicate, qui ne supportera aucun dysfonctionnement. Si on change de mode d'emploi de Dieu, tout s'écroule. Parce qu'on ne suit pas le mode d'emploi de Dieu qui est bon, agréable et parfait. Vous avez donc une dualité, Dieu, sa création, le mâle, la femelle, l'homme, la femme, les parents, les enfants. Pourquoi avoir fait tout ça ? Enfin Dieu ! Il n'aurait pas pu rester tout seul, Dieu ! L'apôtre Paul nous donne la réponse. Il ne voulait pas rester tout seul. Qu'est-ce qu'il a dit l'apôtre Paul ? Il a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 20, 35. Dieu a donné. C'est dans la personne de Dieu elle-même qu'on trouve la raison de la perfection plus parfaite que la perfection. Donner, aimer. Il a besoin d'un objet pour son amour. Il va créer cet objet de son amour. Il va le créer. Oh, c'est extraordinaire. Mais attention, il y a Dieu et il y a ce que Dieu a donné. Il y a les deux. Il n'y a pas de mélange possible. C'est Dieu et l'objet de son amour. Il n'y a pas de mélange. On ne peut pas changer l'un par l'autre. Si quelqu'un veut être Dieu à la place de Dieu, ça ne marchera pas. Si quelqu'un veut être une créature alors qu'il n'en est pas une, ça ne marchera pas non plus. Excusez-moi, vous avez, enfin, je ne sais pas si vous avez compris, mais il y a des créatures bizarres qui ont voulu être plutôt du côté des hommes que de Dieu. Hein. Alors je vous donne un argument qu'on peut entendre, c'est « Oui, mais au fait, vous, là, vous dites que Dieu a créé l'homme à son image. Mais si l'homme est spécifiquement à l'image de Dieu, au contraire de du reste de sa création, Dieu aurait dû le créer d'une manière différente, l'homme, toute spéciale. Or, dans le chapitre 1 de la Genèse, on voit bien que Dieu s'y prend de la même façon. Animal ou homme, c'est la même chose. Votre argumentation ne tient pas. Parce qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et le reste de la création. Ah bon ? Eh bien, mon argument ne tient pas. Eh bien, prenons Genèse chapitre 2. Et que voyons-nous dans chapitre 2 de la Genèse ? Une description du processus de la création, apparemment très différent de Genèse 1. Apparemment. Les végétaux, d'abord. L'être humain mâle, ensuite. La femme n'existe pas encore. Un jardin créé par Dieu sans homme. Transplantation ensuite de l'homme dans le jardin. Un ordre d'interdiction donné à monsieur, pas à madame. Il n'existe pas encore, donc. Hein. Une conscience qui manque quelque chose, ou plutôt quelqu'un à monsieur. Une gestion et une mission donnée par monsieur à tous les animaux de la terre qui semblent comprendre le langage humain. Parce que quand on donne le nom à un animal, on donne aussi sa fonction. Probablement que les animaux devaient comprendre le langage humain. Probablement. Et là, bon, faut pas aller trop loin quand même. Puis, enfin, tenez-vous bien, la création de quoi ? De qui ? De la femme. C'est-à-dire que dans le sixième jour, la dernière chose qui a été faite, c'est la femme. Ce qui faisait dire une blague à ma petite sœur, qui me disait, tu sais pourquoi Dieu a créé l'homme avant la femme? Vous connaissez la blague, non? Bon, je ne sais pas si c'est très agréable, mais enfin, parce qu'il a créé d'abord l'ébauche avant de créer le chef-d'œuvre. C'est pas tout à fait vrai, n'est-ce pas? Mais voilà, Dieu a créé la femme en dernier. C'est vraiment curieux. Pourquoi une si grande différence de description entre Genèse 1 et Genèse 2? Eh bien, moi, je suis persuadé que d'abord, Dieu nous révèle que l'homme n'a pas été créé comme le reste. Les végétaux, au troisième jour, comment ils ont été créés? De toutes pièces, comme l'homme? Les racines, les troncs, et... Non. Quand on regarde ce qui s'est passé, on comprend aujourd'hui qu'il avait créé à l'intérieur de la terre des cosses, avec bien sûr les acides aminés, enfin l'ADN et toutes les mêmes briques de la vie que nous trouvons chez l'homme, mais qui étaient en gestation dans la terre, enfin qui étaient là dans la terre. Avec les mêmes types de molécules que pour l'homme, hein. Puis une rosée vint germer et ensuite développer l'ensemble. Voilà comment ça se passe pour les végétaux. Mais pour l'homme, c'est différent. Dieu réalise un assemblage de toutes pièces, de toutes les pièces, à partir des matériaux terrestres. Aujourd'hui, nous le savons, ce sont des molécules complexes, des acides aminés, des hormones, des cellules, des cheveux, des os, des muscles, un cerveau, même plusieurs. Il paraît qu'il y a plusieurs cerveaux dans le cerveau, vous savez, maintenant on découvre des choses. Des yeux, etc., etc. Mais la femme n'est toujours pas créée. Et l'homme mâle participe à la mesure de ses compétences, à la gestion du jardin. Mais il y a une absence. La création n'est pas encore terminée, nous sommes au sixième jour. Et chose surprenante, la femme sera développée à partir d'un élément de matière de l'homme qui, lui, est déjà vivant. C'est bizarre, hein? On pourrait imaginer un scénario de science-fiction aujourd'hui, vous savez, ça se fait beaucoup ça. Un savant qui développerait à partir de cellules souches un être vivant dont il serait fier. Mais là, ce n'est pas de la science-fiction. Dieu développa le corps féminin à partir de son mari déjà vivant. C'est la première opération sous anesthésie générale. Une symbolique de la mort. Puis, avec une cicatrice au côté, là ou là, je ne sais pas, où, là, il ressuscite en quelque sorte pour découvrir enthousiaste son alter ego, son épouse, qui s'est faite belle pour son époux. Et là, je fais référence à chapitre 21:2 de l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, il nous est dit que la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux, vous voyez, parallèle possible entre l'anesthésie d'Adam et la mort de Christ pour l'Église, elle s'est préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. C'était la même chose dès le départ. Entre le réveil émerveillé d'Adam devant le don de Dieu, c'est il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, et Dieu fait aussi des dons dans son don. Il fait des dons dans son don, enfin, il est toujours en train de donner. Et Christ ressuscité qui découvre l'Église. Parce que dans la prière sacerdotale, Jésus dit, à un moment donné, il dit, tu me les as donnés. Vous voyez, l'Église est en train de se construire et Dieu donne à son Fils son Église. Il existe aussi un autre verset, je ne sais pas si vous le connaissez bien, ce verset. C'est un verset qui dit, il a donné. Parce que Dieu aime bien donner, n'est-ce pas ? Il a donné son Fils unique afin que tu ne meures pas, mais que tu vives une vie d'amour avec lui pour toujours. Ce n'est pas tout à fait ça, je crois, mais vous voyez à peu près ce que je veux dire. Et pourquoi ? Parce que Dieu aime. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Nous avons cette dualité entre l'objet de l'amour de Dieu et Dieu. C'est avec la création toute une symbolique qui nous apparaît ici. On pouvait s'y attendre, puisque Dieu a dit « faisons l'homme à notre image », et puis il insiste, il dit « à notre ressemblance », si on n'est pas sûr, à notre image, à notre ressemblance. Il insiste. On pouvait s'attendre à ce que, même dans la façon dont Dieu crée, il y a une symbolique sous-jacente. Et en même temps, ces symboles sont de vraies choses. Ce n'est pas du fictif. Ils existent, ce que je veux dire. Ils vivent. Ce ne sont pas des logos, ce ne sont pas des affiches publicitaires, ce n'est pas une statue de marbre. Non, c'est du vivant et c'est en même temps du symbole. Extraordinaire. La sagesse est le projet de Dieu. Pour Dieu, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est donc ce qu'il a fait. Il fait un mâle, une femelle, image de Christ et de l'Église. La plus grande de ces réalités, le mariage, je vous disais, le vrai mariage, la plus grande de ces réalités, ce n'est donc pas le couple humain qui est une pâle représentation, mais plutôt le mariage entre Dieu et sa créature. C'est ça le vrai mariage. C'est expliqué dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 5. Aux Éphésiens, chapitre 5, vous connaissez, on dit toujours « Femmes, soyez soumises à vos maris », mais est-ce qu'on oublie le reste qui est derrière, qui nous montre le vrai mariage, n'est-ce pas ? Et nous voyons dans Éphésiens, chapitre 5, ce qui nous y est dit. Et on voit que l'apôtre Paul jubile, hein, Marie-Claire, il jubile aussi l'apôtre Paul. Il dit « Ce mystère est grand !» Je dis ça par rapport à Christ et à l'Église, je ne dis pas ça par rapport au mariage, je dis ça par rapport à l'Église. Christ, verset 25, a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle. Et je passe au verset 32 derrière, où l'apôtre Paul répète ce qui a été dit par Moïse, parce qu'on pensait Moïse hein, qui a fait la Genèse, au début, juste là au début, quand il voit les os de ses os et la chair de sa chair. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, une sorte de séparation mortelle. Enfin, quand même pas, j'exagère un peu, mais il y a une séparation des parents. Pour aller avec son épouse. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et puis il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront un, une seule chair. Et il dit, ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Et il dit bien, hé, réveillez-vous, ce n'est pas votre petit mariage là qui est important, c'est vous êtes, vous, le symbole du vrai mariage, celui de Dieu qui s'unit à sa création. Et dans Genèse 2, 24, je vous rappelle donc ce que dit Adam quand il voit la première fois son épouse. Il dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera féminine parce qu'elle n'est pas masculine, parce qu'elle a été tirée de l'homme. Il a fallu faire une opération pour ça même. Vous voyez bien que la création de Dieu, la création de l'homme a été spécifique. Je dis la création de Dieu, c'est la création de Jésus peut-être, mais vous voyez bien que la création de l'homme a été spécifique. L'être humain est donc bien différent du reste de la création et différent de Dieu lui-même. Il n'y a pas d'autre alternative que le mariage qui débute par une cérémonie fêtée publiquement, socialement reconnue, acceptée par tous les participants. Cet homme, symbole du Messie à venir, s'unit à cette femme, symbole de l'Église à venir. Toute autre forme de lien intime entre êtres humains est en opposition au projet de Dieu. Non seulement en opposition au projet de Dieu, mais on pourrait dire en guerre contre Dieu. Sans le savoir peut-être, mais quand même en guerre. Certains le savent, certains ne s'en rendent pas compte. Parce qu'il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui a apprécié, qui n'a pas apprécié ce projet à sa juste valeur. Il s'est opposé à l'intimité possible entre Dieu et sa créature. Il y a quelqu'un qui s'est opposé à la communion spirituelle que Dieu était en train de mettre en place chez l'être humain. Cet adversaire a un slogan qui n'est pas le même que celui de Dieu. Et quel est ce slogan ? Son slogan, c'est « Il y a plus de bonheur à recevoir qu'à donner. » Ou si vous voulez encore, c'est pire, « Il y a plus de bonheur à prendre qu'à lâcher. » Cette personne a immédiatement réagi au projet de Dieu. Pas d'accord. L'Église, pas d'accord. L'épouse, pas d'accord. Le mariage, pas d'accord. L'être humain en communion avec Dieu, pas d'accord. Il attaque au centre de son problème. Et quel est le centre de son problème ? C'est l'Église et le symbole de l'Église. La femme. Il attaque la femme, mais pas de front. Et la femme, au lieu de se taire, défend son point de vue. Elle discute. Et son mari, au lieu de parler, de défendre leur point de vue, il ne dit rien. Et l'adversaire veut supprimer la communion avec Dieu. Il y arrive. Tout comme plus tard, Balaam y arrivera pour de l'argent, pour du commerce. Il veut supprimer le principe du couple, de la famille, le principe de la fraternité. Caïn passe par là. Depuis des siècles. Enfin, il s'évertuera de détruire toute allusion au symbole de Christ et de son Église. Toute allusion. Et il nous l'est dit dans l'Apocalypse. Toute allusion. On est toujours dans le même bateau, avec les mêmes personnages qui ne nous veulent pas du bien. Et quand je dis nous, ce n'est pas l'Église, c'est l'humanité tout entière. Il s'évertuera de détruire toute allusion au symbole de Christ et de son Église, c'est-à-dire le couple humain. Depuis des siècles, les femmes sont devenues esclaves des hommes parce qu'elles représentent trop l'Église. Depuis des siècles, les vies de couple sont devenues des lieux de tension parce qu'ils représentent trop la communion de Dieu et de son peuple. Un dénommé Lémèque supprima la notion de couple et remplaça cette notion par la polygamie. Il amplifia les notions de vengeance et il institua des notions de justice inique. C'est dans Genèse 4, versets 19 à 24, vous connaissez. Premier pas vers les relations contre nature. Un dénommé Enoch, appelé le septième depuis Adam, aura la révélation que nous voyons dans l'épître de Jude, verset 14. C'est la première révélation. Il y a l'Apocalypse, qui est la deuxième révélation, mais une première révélation avait déjà été donnée à un homme qui vivait avant le déluge. Et qu'est-ce qu'il dit, ce Jude en question? Il parle d'Enoch. Vous savez qui est Jude? C'était un des frères du Seigneur. Et il dit, je crois... Alors, il dit... Je suis perdu, excusez-moi. Je me suis perdu moi-même. Jude, verset 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies. Les impies, c'est ceux qui n'ont pas de communion avec Dieu. Hein, et les impies, parmi eux, de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, de toutes les paroles injurieuses, etc. Cette prophétie, elle était donnée à Enoch. Voici, le Seigneur vient avec son armée céleste pour exercer un jugement contre tous, etc. Mais il dit, c'est aussi pour eux, hein, qu'il dit dans le verset 14. Mais le verset 14 nous parle donc de eux, et c'est qui eux? Eh bien, on va dans le verset 11, et au verset 11, il nous est dit, « Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. » C'est la mort dans la société. C'est la mort de la société. C'est avant le déluge. Il y a les mecs et il y en a d'autres. Et dans Genèse 6, il y a des choses un peu plus terribles que Dieu nous laisse entrevoir. Et il ne veut pas nous souiller par pour la révélation de ce que c'est, mais il est obligé, enfin, c'est pas qu'il est obligé, Dieu, mais il nous révèle les choses. Il nous dit dans Genèse 6, et vous le lirez, vous verrez, nous nous apercevons que l'adversaire du départ a pratiquement réussi. C'est fini. Tout est cassé. Il n'y a plus de communion de Dieu avec Dieu. Il n'y a plus de notion de couple homme-femme, mais plutôt des anges déchus qui arrivent à s'unir avec des femmes, alors je ne sais pas comment, pour créer un monde hybride avec des personnages puissants ayant des tailles anormales. Chose bizarre qui mêle l'occultisme, les relations avec les démons et les sexualités contre nature. Et Dieu décide d'anéantir sa création. Il avait pourtant dit que c'était très bon. Vous vous rendez compte? Il décide d'anéantir ce qui était très bon. Et Dieu pleure. Verset 6. Parce que son slogan, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, a été bafoué, il a été remplacé par il y a plus de bonheur à prendre qu'à donner. Les mecs, hein, J'ai tué un homme pour ma blessure, un jeune homme pour ma meurtrissure. Mais on dit c'est fou et on dit c'est pas possible. Ouais, enfin, c'est fou, on voit ça aujourd'hui, mais c'était déjà à l'époque. L'être humain est devenu l'esclave de l'ennemi jusqu'au plus profond de ses pensées. L'humanité est vouée désormais à la destruction, elle va être détruite. Dieu en a décidé ainsi. Et ce qui est anormal, vous savez pas mes frères et sœurs, ce qui est anormal, c'est que nous existions. Parce que normalement, on n'aurait pas dû exister. Seulement, voilà, Dieu a regardé et il a vu Noé à un moment. Et que Noé a trouvé grâce à ses yeux. Ouf, oh là là, dis donc, on n'aurait jamais existé. Je veux surtout ici insister sur la méthode de l'adversaire. Supprimer la notion de communion entre Dieu et son Église, quelle que soit la formule. L'objectif, c'est ça, et tous les symboles qui vont avec. Le couple, la famille, l'adoption, l'enfantement. Mais en particulier, encourager les relations sexuelles. Contre nature, elles sont décrites dans Lévitique chapitre 18, mais je n'ose même pas en parler. Allez voir, mais bon. Ce sont ces raisons-là qui ont provoqué le châtiment de Dieu sur Canaan et l'arrivée d'Israël dans son pays. Et curieusement, aujourd'hui, beaucoup s'opposent à la légitimité du retour d'Israël dans son pays. Donc, du slogan « Le mariage est une institution bourgeoise », l'idéologie est passée à « Le mariage est un droit pour toutes les préférences sexuelles ». Et nous, les chrétiens, nous sommes passés à « Le mariage est tellement difficile qu'on n'ose même pas en parler ». C'est pas normal. Rien n'est normal dans tout ça. Retrouvons sans honte, dans la faiblesse de notre témoignage, la possibilité de témoigner à tous que le mariage est une institution divine. Encourageant nos contemporains à reconnaître dans le projet de Dieu une réalité merveilleuse, qui est la seule réalité dans laquelle ils peuvent s'épanouir et trouver la véritable fonction de leur vie, une image par le couple de l'Église avec Dieu. Quand je dis l'Église, ce n'est pas l'Église catholique, bien sûr. Non, c'est la réunion de tous les chrétiens, de tous les temps, et c'est quelque chose de prodigieux, un mystère révélé. Il nous est dit, jamais personne n'a haï sa propre chair. C'est allusion à la première anesthésie générale et à la production de l'alter ego d'Adam. Mais il la nourrit et il en prend soin. Dans Éphésiens 5, verset 26, vous connaissez, il est dit que le Christ sanctifie son épouse en la purifiant, en la libérant de la souillure par un nettoyage spirituel, le bain d'eau de la parole de Dieu. On lit la Bible, le psaume 30 par exemple, et le Saint-Esprit nous éclaire sur telle et telle situation. Ce témoignage, ce nettoyage spirituel, ça s'adresse aux dames ? Non, ça s'adresse aussi aux messieurs. Ce nettoyage spirituel est fait par le Seigneur sur l'Église, les messieurs. Comme les dames. Ici, on parle de Christ qui lave son Église. Hein? Donc les hommes mâles ont tout autant besoin de nettoyage que ces dames. Pas plus, mais pas moins non plus. Éphésiens 5, 32 nous dit le mystère. Alors, dans le grec, le mystère, c'était un truc d'initié et on n'y avait pas accès. Mais ici, c'est un mystère révélé. C'est un mystère révélé. Et dans Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 10, il nous est dit que Dieu, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est pour donner le flash, hein, Dieu se marie avec sa création. Il se marie avec sa créature. Regardez, Éphésiens chapitre 1, et il nous est dit, c'est dans l'enthousiasme que l'apôtre Paul dit cela, il dit, il nous a dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, dans les lieux célestes en Christ. Et en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, irréprochables. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Il nous dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, de son don, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, ce qui était créé depuis Enfin, ce qui était dans son plan depuis tout avant même que le temps ne fût. Le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque le temps sera accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Et donc l'apôtre Paul essaie de nous révéler que c'est prodigieux, que Dieu se marie avec sa création, qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se créer par Dieu lui-même. Waouh ! Réunir toutes choses en Christ, celles des cieux et celles de la terre. Et par Hébreux 2, 5, nous savons que le monde nouveau qui va venir ne sera pas géré par des anges, ne sera pas piloté par des anges, mais par quelque chose d'autre. Et ça, l'adversaire ne l'a probablement pas accepté. On ne sait pas. L'adversaire ne l'a probablement pas supporté. Il s'est probablement considéré comme écarté du projet de Dieu. Alors, il veut construire autre chose. 2 Pierre 1, 20 et 21 nous dit que toute écriture de l'écriture, n'est-ce pas, a été faite et qu'elle est inspirée de Dieu et qu'elle elle ne peut pas être l'objet d'une interprétation particulière. On ne peut pas prendre un verset et dire je vais prendre celui-là et puis je vais faire tout un truc avec. Comme les Mormons, par exemple, qui se font baptiser parce qu'ils ont un verset dans 1 Corinthiens 15 et qu'ils ont vu qu'il y a des gens qui se font baptiser pour les morts. Alors ils se font baptiser pour les morts. Ils ne peuvent pas parce qu'ils ne prennent qu'un seul verset et avec tout ça, ils font un gros truc. Nous prenons des morceaux de la Bible et nous essayons de comprendre, nous tentons de comprendre toute la mentalité de Dieu qui est grandiose et que ça puisse être réduit à notre compréhension. Et on utilise beaucoup de versets pour cela. Non, l'adversaire, lui, il s'est probablement considéré comme écarté du projet de Dieu. Probablement. Ça, là c'est pas marqué dans la Bible. Hein, donc, attention, mais on peut supposer. L'adversaire veut construire autre chose que lui. Son projet à lui. C'est quoi son projet ? Attaquer Dieu de face ? Non, non. Regardez. Faux prophète, faux docteur. Dans 2 Pierre chapitre 2 verset 1 à 4, vous voyez, vous savez qu'il y a eu des faux prophètes dans le temps, dit Pierre. Eh bien vous, ben, vous serez aussi à la même enseigne. Vous aurez aussi des faux docteurs. Et qu'est-ce qu'ils feront ? Ils pervertiront l'Église. Ils essaieront d'introduire dans l'Église des virus, comme on dit, et pour tuer l'Église. Hein ? N'y arriveront pas, mais ils vont quand même tenter de le faire. Et nous devons être comme des globules blancs, hein, et savoir résister à ces virus et à les attaquer. Voilà. L'adversaire veut construire autre chose. Ce sont des religieux qui font profession de suivre Dieu, mais qui n'ont pas la vraie pierre angulaire. C'est ce qui nous est dit dans 2 Pierre 2. Ils n'ont pas la pierre angulaire. Vous vous souvenez de la pierre angulaire, hein ? On en parle beaucoup dans la parole de Dieu. Jésus en a parlé également. Il nous a dit, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Alors ce qui est curieux dans cette expression, c'est qu'on sent qu'il y a des gens qui veulent bâtir et qui construisent. Et ils ont l'air de bien construire et ça y va. Et puis ils sont à côté, ils ne sont pas sur la pierre. Et on voit aussi dans ces expressions que ce sont des religieux, c'est-à-dire des gens que nous pouvons côtoyer. Ce ne sont pas des gens qui nous attaquent de face, mais qui nous attaquent de biais. En quoi faisant ? En détournant, en modifiant la doctrine, en modifiant ce qu'est Dieu, la mentalité de Dieu. Vous vous souvenez que ce que dit Dieu aux pharisiens ? Matthieu chapitre 21, versets 40 à 45, c'est la parabole des vignerons. Et alors, Jésus est en train d'expliquer que vraiment ces vignerons sont impudents, ils sont vraiment criminels, ils finissent par tuer le fils du propriétaire. Et les pharisiens, ils disent, mais ah ben, tu as raison, hein, parce que vraiment, c'est vraiment un scandale ce qu'ils font. Ah oui ? Il fait Jésus ? Mais il dit, mais la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Vous n'avez jamais vu ça ? Et vous savez que vous pensez avoir le monopole de Dieu, mais que ce monopole, il est parti, là, c'est fini, on est à la fin, là. Et cette mission va donner à un peuple qui en donnera les fruits. Oh, et alors, ils se rendent compte tout d'un coup, eux, religieux, qui sont sur une mauvaise pierre. Ils pensaient être sur la pierre angulaire, ils ne sont pas sur la pierre angulaire. Catastrophe. Repentons-nous. Non, je ne vais pas me repentir, j'ai raison. Je tiens. Je resterai, tant pis, c'est même le fils de Dieu, mais on le tuera. Et ils vont jusqu'à le tuer. Extraordinaire. parabole des vignerons. L'adversaire fera un anti-Dieu, lui-même, un anti-homme, pas un gentilhomme, hein, non, un anti-homme. Celui qui, évoqué dans le livre de Daniel, chapitre 11, verset 37, supprime la notion de femme, supprime la relation de la femme à la femme. Des trucs un peu curieux. Un antichrist, une anti-église, qui ressemble au projet de Dieu, mais qui en a un slogan diamétralement opposé. Il y a plus de bonheur à prendre qu'à donner. C'est moi qui décide et toi, Dieu, tu suis. En gros. A contrario, celui qui accepte de donner prouve qu'il a un esprit en lui qui ressemble à celui du don gratuit de Dieu. On peut trouver quand même ça encore dans notre monde, même chez des gens qui ne sont pas au Seigneur et qui ont encore un état d'esprit qui ressemble à ce don de Dieu. Celui qui n'accepte pas le don gratuit de Dieu, il préfère faire du commerce avec lui, avec Dieu. Je te donne ça, Dieu. Comme ça, je vais récupérer quelque chose de toi. Hein, Dieu, t'es d'accord? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, alors que nous n'étions pas encore à lui, il a donné. Il n'a pas fait de commerce en se disant « Ouais, je vais récupérer une église, je vais récupérer quelqu'un. » Non, il a donné. Lorsque nous étions encore loin de lui, sans force, des pécheurs, au temps marqué, il a donné son Fils, Christ est mort pour nous. Il n'a pas fait de commerce, il a donné. C'est ce qui est marqué dans Romains chapitre 5, verset 6. Si tu acceptes le don gratuit de Dieu, ça veut dire que tu ne te mets pas à son niveau, à lui, Dieu. Il faut être fou pour prétendre être l'égal de Dieu, non? Tu acceptes donc d'être autre que lui, d'être le réceptacle du don de Dieu. Dépendant de lui, tu acceptes d'être femme si tu es femme. Tu acceptes d'être homme si tu es homme, parce que tu acceptes le don que Dieu t'a fait d'être ainsi fait. Et c'est très bien. Et Dieu avait dit, et il dit toujours, c'était très bon. Et alors tu acceptes également la notion de couple selon Dieu et non selon toi. Alors la conclusion, elle est donc dans Jude, verset 11. Excusez-moi, hein, je suis long. Ils ont suivi la voie de Caïn. Il nous est dit, hein, verset 11, ils ont suivi la voie de Caïn. C'est quoi la voie de Caïn? C'est pas le chemin de Jésus. Hein. Jésus est le chemin, mais là c'est la voie de Caïn. Dieu, j'imite Caïn. Hein. Excusez-moi, je vais imiter Caïn. Vous allez voir si je sais bien l'imiter. Dieu, je te donne, donc j'ai droit à ta faveur. Ce n'est pas négociable, puisque je t'ai donné. Le deuxième, c'est Balaam. Ils se sont jetés pour l'argent dans la voie de Balaam. Ils ont perdu le vrai chemin, ils ont pris un autre chemin. Et Dieu, là je vais faire le Balaam. Dieu, moi j'ai un projet qui n'est pas le tien, il est le mien, il est bien. Tu sais Dieu, tu devrais en tenir compte de mon projet. Il est aussi bon que le tien. Si tu n'acceptes pas mes choix, tu es un tyran Dieu. Balaam aimait l'argent. Et il avait des projets, tout comme Judas, qui avait des projets aussi. Ils se sont perdus dans la révolte de Corée, ça c'est le dernier. Ils n'ont plus repéré du tout leur chemin cette fois-ci, c'est fini, ils sont perdus. Et là je vais faire Corée. Dieu, tu as choisi Aaron comme grand prêtre. C'est pas normal. Je revendique le titre de grand prêtre. Puisque je suis l'aîné, tu aurais dû me choisir, moi. Trois points qui parlent des relations contre nature. Caïn, la bonne action qui donne droit au don de Dieu. Balaam, le projet autonome juste pour soi et que Dieu doit approuver. Et Corée, le droit légal qui me permet de contester le droit de Dieu. Je suis fils aîné. Toi-même, Dieu, tu ne peux pas aller contre ça. Vous voyez ? Ce genre de mentalité. On n'est pas dans le don, hein, vous voyez ? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Un seul symbole, immuable, éternel, qui ne va pas s'arrêter maintenant, là, à la fin du monde, et va continuer ce symbole. Dieu, l'Église, l'époux, l'épouse. Aucun autre système que celui-là ne fonctionnera. Je vais maintenant prier en vous demandant de m'excuser si j'ai peut-être titillé chez vous des souvenirs désagréables. Soyez certains que le Seigneur nous pardonne de tous nos péchés, qu'il m'a pardonné mon péché à moi. Alors, il va le faire pour vous aussi, je pense. Et que nous avons à être des symboles. Marie, femme, qui vont bien loin de ce... pour ma part, peut-être pas pour vous, mais qui vont pour moi bien plus loin que ce qu'on imagine au niveau de la symbolique que nous témoignons auprès de nos contemporains. Seigneur notre Père, notre Dieu, ô combien tu es le Dieu merveilleux qui aurait pu être tout seul et rester seul dans l'univers, ou même sans univers puisqu'il n'y en avait pas encore. Et toi, tu as voulu tout créer. Et toi, tu nous as aimés dès avant la fondation du monde. Et je suis persuadé que tu voulais aimer le monde entier, Seigneur, et que ce monde entier, hélas, ne t'acceptera pas tout entier. Nous voulons te remercier de ce que nous avons fait ce choix, que nous apprécions cette grandeur de ton amour, et que cela nous saisit de voir que tu nous as aimés, que tu as donné, et nous savons que ton principe c'est de donner, et que tu nous as aidés aussi à devenir des donateurs, des gens qui donnent. Seigneur, te demandant que tu nous bénisses, que tu bénisses tous ceux qui sont dans cette situation de souffrance, où ils ont cherché et où ils cherchent encore des relations contre nature, qui le cherchent peut-être avec sincérité, mais qui sont complètement dans l'erreur. Permets, Seigneur, que nous puissions les ramener à toi, comme tu l'as fait, Seigneur. Louange à toi, parce que tu attends encore aujourd'hui beaucoup de gens qui entrent dans ton projet merveilleux. Au nom de ton Fils. Amen.